J'aimerais lire avec vous un verset dans le psaume 34, le verset 5 et 6. Et ce texte que nous allons lire va être suivi d'une autre lecture où quelqu'un a vraiment vécu ce que nous allons lire dans le psaume 34, verset 5. C'est David qui écrit ces choses, il l'a vécu lui-même. Voilà ce qu'il dit, psaume 34, verset 5. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. » Est-ce que vous trouvez qu'il est beau ce texte? Il est beau, c'est une expérience extraordinaire. Et nous allons lire dans l'évangile de Jean un homme qui a vécu, vraiment vécu cette expérience. Dans Jean au chapitre 9, c'est le fameux aveugle de Jérusalem. Jean chapitre 9. Eh bien, on va lire le chapitre en entier, car il exprime vraiment, vraiment toute cette bénédiction qu'un homme a pu vivre et les combats qu'il a dû mener. Parce que vous savez, dès qu'on connaît la lumière, il y a inévitablement un combat. Jean chapitre 9. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va !» Et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Il y eut division parmi eux. Et ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites avoir être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera en ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il ?
Seigneur, afin que je croie en lui. Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient désormais deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Quelle belle histoire. Elle n'est pas belle cette histoire? Elle est merveilleuse. Cette histoire nous montre qu'il y a des gens qui sont aveugles et qui vont voir, et des gens qui voient et qui sont véritablement des aveugles. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Je suis en train de préparer toute une étude sur la Hanouka, vous savez, la fête juive, pour expliquer quand est-ce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. C'est très, très, très intéressant. C'est à une certaine fête, c'est à la fameuse fête des Lumières. J'en parlerai un dimanche matin. C'est très intéressant. Quand Israël était inondé de lumière, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Beaucoup de gens, aujourd'hui, vont fêter Noël. Dans quelques jours, on va fêter Noël. Mais pour beaucoup de gens, ça ne veut absolument rien dire, à part tout ce qui gravite autour de Noël. L'autre jour, il y avait une émission sur le Thanksgiving aux États-Unis. Alors, ça parlait de dinde. Il y avait une émission sur la fête des Lumières aux États-Unis encore. Ça parlait de pommes avec du miel. Je me suis dit, mais ça n'avance pas grand-chose par rapport à ce que c'est véritablement. Oui, parce que Jésus a dit que les hommes, le cœur des hommes est plongé dans les ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle il y a si peu de gens qui cherchent Dieu, si peu de gens qui veulent entendre parler de Dieu. C'est la raison pour laquelle tant de gens sont désespérés, tant de gens ont peur du lendemain. Je ne sais pas si vous voyez comment ça se passe dans le monde, mais vous avez vu comment les gens ils ont peur. Voilà, parce qu'ils sont plongés dans les ténèbres. La Bible dit qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et vous, est-ce que vous avez la paix? Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous donner la paix ce soir? Certains croient en Dieu, comme ces pharisiens qui déblatéraient comme ils n'en pouvaient plus par rapport avec ce pauvre aveugle né. Mais ils ne comprenaient rien, ils ne comprenaient rien. Ils n'avaient pas rencontré le Seigneur d'une manière personnelle, même s'ils avaient une véritable religion. Est-ce qu'on n'a pas besoin, nous aussi, de voir? Est-ce que vous avez besoin de voir davantage? Est-ce que vous avez besoin que nos yeux s'ouvrent davantage sur les vérités spirituelles, sur les promesses, sur les commandements? Et le Seigneur, il veut le faire. Et ce soir, peut-être que cette exhortation nous permet, à vous et à moi, de dire, mais c'est vrai Seigneur, ouvre encore mes yeux, conduis-moi, amène-moi au réservoir. Tout à l'heure, je lisais dans le psaume quand il est dit, auprès de toi est la source de la vie. Et je dis, mais Seigneur, ça n'a pas changé. Tu es la source de la vie. C'est pour ça que Jésus a envoyé cet aveugle à la source. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'acte de foi qu'a fait cet homme. Parce qu'aujourd'hui, on dirait à un aveugle, écoute, on va te mettre de la boue et tu vas te laver là-bas, à la fontaine à Toulouse. Il dirait, non, attends, arrête. Moi, guéris-moi et après j'irai me laver. Aujourd'hui, les gens, ils discuteraient. Il n'y a personne qui dirait, attends, on verra après. Et c'est là que l'on voit la foi de l'homme. Cet homme, il avait une foi entière, une foi d'obéissance. Pourquoi? Parce que quand Jésus lui a dit, va te laver, il y a été. Il aurait pu dire, attends, Seigneur, j'y vois rien. Comment il y a été? On n'en sait rien comment il y a été. Est-ce qu'il y a été tout seul parce qu'il connaissait le chemin? Est-ce qu'il s'est fait aider? Est-ce qu'il avait un ami qui l'a accompagné? En tous les cas, il y a été. Et vous savez, la première des choses pour que Dieu puisse ouvrir nos yeux, c'est d'obéir à ce qu'il nous demande. Cet homme avait une foi qui obéissait. Et je crois que c'est ça la véritable foi. Parce que la foi qui se gargarise d'émotions, de sentiments et de tralali, ça ne sert à rien. Je crois qu'il faut une foi d'obéissance. Et si Dieu vous demande quelque chose, faites-le. Il est allé au réservoir. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu lui a demandé d'aller au réservoir. Et c'est ça la foi. C'est faire ce que Dieu nous demande. Peut-être que Dieu est en train de vous demander quelque chose. Ces jours-ci, ces semaines-ci. Peut-être qu'il y a une parole de l'Écriture qui s'impose à votre cœur. Eh bien c'est ça que Dieu vous demande. Est-ce que ça peut arriver qu'un verset revienne en boucle dans votre cœur? Est-ce que ça peut arriver? Eh bien oui, eh bien c'est probable que ça soit la chose que le Seigneur soit en train de vous demander. Cet homme, il a entendu Jésus lui dire, va au réservoir de Siloé. Il le connaît. Est-ce qu'il le connaissait? Il ne le connaissait pas. Il a juste dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Il avait juste entendu parler de lui, mais vous savez, c'est ça la vraie foi. C'est que même si on n'a pas entendu parler beaucoup des choses de Dieu, le peu que l'on sait, eh bien, on le prend au sérieux. Il est arrivé au réservoir de Siloé, il s'est lavé, et le Seigneur l'a complètement guéri. Quelle bénédiction. Vous n'avez pas envie que Dieu vous bénisse? Vous savez, on n'est pas nombreux, mais franchement, bon, c'est important ou c'est pas important que vous ne soyez pas nombreux? Oui, bon, ce serait mieux que l'église soit pleine. Mais franchement, ce qui est important, ce n'est pas que l'église soit pleine ou que l'église soit vide. Ce qui est important, c'est que nos cœurs soient conscients que le Seigneur, il est là pour nous parler. Ne serions-nous que deux ou trois pour qu'il soit là et pour qu'on puisse véritablement dire, mais Seigneur, c'est vrai, tu es en train de me montrer que malgré ma cécité, il faut que j'aille plus loin, que j'obéisse et qu'en faisant ce que tu me demandes, eh bien, tu vas me bénir. Alors, il n'y a pas de réservoir. Ne cherchez pas un réservoir à Toulouse pour aller vous laver. Notre réservoir à nous, notre fontaine à nous, on le chante assez souvent, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, et il n'arrête pas de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ça ne s'adresse pas qu'aux pécheurs. Ça s'adresse à tout le monde. Parce que quand on est pécheur, on a besoin de venir à Jésus. Mais quand on est chrétien, on a régulièrement et très régulièrement besoin de revenir à la source et de se plonger dans cette grâce et dans cette bénédiction. Cet homme, une fois guéri, était tellement transformé que même les voisins, les proches, ne l'ont pas reconnu. Ce n'est pas une histoire merveilleuse, ça. Bon, cet après-midi, je méditais, je préparais cette histoire, je la méditais, j'ai déjà prêché dessus, mais je me disais, quel est l'enseignement que tu veux qu'on ait ce soir? Je crois que ce qu'on a lu dans les Proverbes, que quand on regarde à Jésus, on change vraiment. Vous vous rendez compte? Ils avaient connu cet homme aveugle. Alors, peut-être qu'il n'avait même pas d'œil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les commentaires que moi j'ai lus dessus expliquent que si Jésus a fait de la boue, c'est parce que cet homme n'avait rien. Il avait que les orbites. Je comprends que si Dieu lui a fait des yeux, il devait changer quand même de bouille. C'est sûr qu'il a dû changer. Mais vous vous rendez compte? Tout d'un coup, ce visage, vous rendez compte? Mort, sans vue, sans expression, qui tout d'un coup s'illumine parce qu'il a été touché par la grâce de Dieu et surtout parce qu'il a obéi à la grâce de Dieu. Un homme, comment il devait marcher cet homme avant? Puisqu'il me dit, comment il devait marcher? On dit, comment il devait marcher avec un bâton? Vous avez vu les aveugles, comment ils marchaient? Et cet homme qui devait marcher d'une manière maladroite, tout ça. Et tout d'un coup, je pense qu'il a dû marcher avec un peu plus d'assurance. Non? Est-ce que vous imaginez? Je comprends un peu que les voisins ne l'aient pas tous reconnu. Parce que rien que sa façon de s'exprimer, rien que par son regard et sa façon de marcher, devait avoir vraiment changé. Alors vous avez vu, il y en a qui disent, oui, c'est lui, non, c'est pas lui, mais il lui ressemble. Vous voyez, ça agitait un petit peu le quartier. Moi, je crois que quand le Seigneur, il nous touche, ou il nous retouche, ou il nous re-retouche, ça nous transforme. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et je crois qu'on a besoin de joie aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de joie de temps en temps? Oui, on a besoin de joie. Alors peut-être que ça ne s'extériorise pas forcément. N'allons pas non plus pinailler par rapport à l'expression du visage. Mais dans notre cœur, je crois qu'il doit se passer quelque chose. Hein? Ce n'est pas parce que le visage n'exprime pas une immense grâce, une immense assurance, que dans notre cœur, il ne s'est pas passé quelque chose. Je le crois vraiment, que Dieu peut ôter notre cœur de pierre, comme me dit Ézéchiel, et nous donner un cœur de chair. Oui, en tous les cas, si le visage ne change pas trop, parce que bon, on n'est pas obligé de voir un visage rayonnant de joie, mais je crois que le cœur change, le caractère change. Est-ce que vous le croyez? Que le caractère change? Parce que bon, c'est bien joli de dire, oui, t'as de beaux yeux, d'accord, tu vois mieux, t'es plus rayonnant, mais au-delà de l'expression physique, je pense qu'il doit y avoir un changement intérieur. Vous le croyez? Hein? Moi, je le crois vraiment, que quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, il se passe des choses dans notre caractère. Pas dans la personnalité continue à s'épanouir, mais notre caractère, il doit changer. La Bible compare un chrétien à un arbre qui est greffé. Vous avez déjà vu des arbres greffés? Ça se voit, enfin, si quelqu'un le connaît un peu, il voit un petit peu la greffe, hein, le greffon, il voit où c'est. Et bien, un arbre greffé, c'est toujours le même arbre. Si on regarde bien, c'est le même arbre, c'est le même terrain, c'est la même terre, c'est la même sève, mais c'est plus la même vie. Et on le voit aux fruits. Moi, j'ai un citronnier, pendant des années, il n'a rien donné. Et un jour, mon père m'a dit, mais si tu veux qu'il donne des fruits, il faut le greffer. Voilà, et il me l'a greffé, et puis après, il y a eu des fleurs, et c'est extraordinaire. Pourtant, c'est le même pot, c'est le même tronc, mais ce n'est plus la même vie. Et quand on est de nouveau, on a peut-être le même corps, mais on n'a plus le même cœur, pas la pompe hein, qui envoie le sang. mais il y a quelque chose qui se passe et on a envie de porter du fruit. Vous avez envie de porter du fruit, hein, d'être utile aux hommes. Alors, cet homme, bien sûr, il a changé, mais de suite, il y a eu un combat. Vous avez vu ? C'est terrible, ça. Cet homme, il est en train de faire une expérience merveilleuse. Il est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Vous n'aimeriez pas, vous, que tous les aveugles spirituels de Toulouse se mettent à voir ? Ce serait merveilleux si tout d'un coup, les gens avaient de l'espoir. Et patatrac, voilà que la religion prend son contre-pied et que voilà, des gens commencent à dire « Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? » etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un combat entre la lumière et les ténèbres. Et cet homme, il va pouvoir livrer ce combat, même si ce n'est pas grand-chose. Moi, je trouve que ça, c'est merveilleux, parce qu'il ne connaît pas grand-chose. D'ailleurs, il sait juste, il dit, oui, l'homme qu'on appelle Jésus. Il va quand même dire, je sais une chose. Ça, c'est bien quand on commence à découvrir l'Évangile et qu'on est capable de dire, oui, moi, je ne connais pas grand-chose, je n'ai pas lu toute la Bible, je n'ai pas été à l'école biblique, rien, mais je sais une chose. Ça, c'est un encouragement par rapport à nos combats, que même si on ne sait pas grand-chose, on peut quand même faire face à l'adversité, aux problèmes qu'on rencontre, parce qu'on en rencontre des gens. Moi, au début, je me rappelle, oui, mais comment tu sais que tu es sauvé ? Mais pour qui tu te prends ? Mais tu es un orgueilleux. Moi, je savais que je t'ai sauvé, puisqu'on me l'avait dit et que je l'avais lu. Mais j'étais incapable de l'expliquer. Mais c'est extraordinaire d'avoir de l'assurance. Et cet homme, il a de l'assurance. Et je pensais cet après-midi au jeune homme riche. Vous connaissez le jeune homme riche ? Qui, lui, est venu vers Jésus avec une grande, grande, grande connaissance. Il connaissait tout. Tout, il connaissait. Vous connaissez l'affaire. Il connaissait tout par cœur. Et pourtant, le Seigneur lui a dit, il te manque une chose. Et lui, l'aveugle, l'ex-aveugle, il a dit, je sais une chose. Alors peut-être vous ne connaissez pas tout. Moi, quand je me suis converti, des fois, j'entendais les pasteurs qui parlaient d'ecclésiologie, vous voyez, de rédemption, de sanctification, d'herméneutique, de pneumatologie. Vous savez, pour parler du Saint-Esprit, c'est la pneumatologie. Je me suis dit, tu ne connais rien. Et c'est vrai qu'il y en a des pasteurs, des fois, ils expriment énormément de choses. Voilà. Mais je crois qu'il faut que ça commence par une chose. Faire une expérience. Cet homme, il savait une chose. Il savait qu'il était aveugle et que maintenant, il ne l'était plus. Et qu'il avait eu besoin du Seigneur et que le Seigneur s'était présenté dans sa vie. Il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que sur la terre, on a besoin d'être sauvé. C'est la seule chose qu'on a besoin de savoir. Qu'est-ce que c'est qui est le plus important pour vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous êtes là, tout à l'heure, vous serez chez vous. C'est quoi le plus important ? Ouais, c'est sauver son âme, c'est bien, mais il faut le faire. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Mais il ne faut pas rester là, il ne faut pas rester là. Et cet homme, il n'est pas resté là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, est-ce que c'est bien de faire une expérience ? Est-ce que c'était bien cette expérience, d'être sauvé, d'être délivré de la cécité ? Est-ce que vous vous imaginez l'expérience de cet homme ? Mais beaucoup en restent là. Il faut une expérience, il s'intéresse à celui qui bénit, ou même au salut, mais il ne s'intéresse pas au sauveur. Il s'intéresse au don, mais pas au donateur. Vous voyez, il s'intéresse à la bénédiction, mais pas au Dieu qui bénit. Beaucoup en restent à la bénédiction. Moi, je ne sais pas combien de gens j'ai baptisés, enfin, on a amené à la foi, qui ont pris le baptême et qui en sont restés là, à faire quelques expériences. Il faut aller plus loin. Cet homme, il est passé d'une chose, puisqu'il dit « je sais une chose », il est passé d'une chose à une personne, malgré le combat. Malgré le combat qu'il a dû mener avec les gens religieux en plus. La religion, je peux vous dire qu'elle ne nous aide pas. C'est triste à dire, mais la religion ne nous aide pas. Cet homme, il était aveugle, il est en train de voir et il a affaire à des aveugles spirituels. C'est pour ça qu'ils ont pris une sacrée leçon à la fin du chapitre par le Seigneur Jésus lui-même. Et cet homme, il voulait aller plus loin. Et c'est pour ça que ce chapitre, il est long. L'expérience, parce qu'il y a des textes dans la Bible, il guérit un aveugle, il guérit des aveugles, paf, on passe à autre chose. Mais là, il y a, vous avez vu combien, 41 versets qui expriment l'expérience qu'a fait cet homme parce qu'il est passé de l'expérience à la connaissance d'une personne. Au début, quand on lui dit « Mais qui c'est qui t'a guéri ?» Ben, l'homme qu'on appelle Jésus. Vous voyez, vous l'avez vu avec moi ? Vous y êtes ? Au verset 11. L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. C'est pas beaucoup, hein ? Franchement, c'est pas une grande, grande connaissance. Au verset 17... Qu'est-ce qu'il dit à la fin du verset 17, quand ce combat se met en place ? C'est un prophète. Déjà, vous voyez, il y a une progression. Et il va aller plus loin. Et Dieu le sait. C'est pour ça que Dieu se trouve sur son chemin. Au verset 35, vous l'avez lu avec moi tout à l'heure, Jésus l'a rencontré. Vous voyez, un homme,
un prophète, et on passe au Seigneur. Et on passe surtout à l'adoration. Crois-tu au Fils de Dieu ? Il répondit, vous avez vu la suite, oui, je crois Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il l'adore. Quelle progression ! Passer d'une expérience à l'adoration. Parce qu'il y a des gens qui font des expériences, mais qui ne sont jamais devenus des adorateurs. À qui avez-vous affaire, vous, au fait, quand, avec Jésus ? À un homme qu'on appelle Jésus ? Est-ce que vous avez affaire à une église ? Tiens, oui, c'est l'église évangélique. Oui, j'étais de telle religion, maintenant je suis devenu évangélique. Ou est-ce que vous avez affaire vraiment à ce Seigneur merveilleux que vous connaissez de plus en plus, au Fils de Dieu ? Il est le Fils de Dieu. Et c'est cela que Dieu veut faire, nous conduire d'une expérience, une belle expérience, de plusieurs expériences, à la connaissance d'être un véritable adorateur. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu, cet homme ? Bon, je pense qu'il est mort depuis le temps. Hein ? Mais qu'est-ce qu'il est devenu, cet homme ? Est-ce qu'il a dû avancer ? Est-ce qu'il était dans la foule qui criait ? Parce que Hosanna, Hosanna, ou dans la foule qui criait « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Vous vous rappelez, il y a eu plusieurs situations. Moi, je pense qu'il devait être dans la foule, ou dans les 120 disciples même peut-être. Est-ce qu'il pouvait faire partie des 120 dans la chambre haute ? Moi, je le pense. Quand on a été béni, quand on a été touché, on peut rester fidèle. Il a peut-être tout envoyé balader. Regardez Judas, il a tout envoyé balader par rapport à l'amour de l'argent. En tous les cas, une expérience ne doit pas rester une expérience. Moi, vous savez, quand je me suis converti, j'étais sûr que tous les gens qui faisaient une expérience devenaient de bons chrétiens. Tous, j'étais sûr et certain. Et puis, je vous assure que ça m'a refroidi de voir des gens qui ont été guéris. Moi, j'ai vu des gens guéris, délivrés. Je me souviens, il y avait même un monsieur qui était venu une fois, il était aveugle, il est arrivé, avec un gars, il avait 25 ans, 30 ans. C'était tout à fait au début que j'étais là. Il est arrivé avec sa canne blanche. Voilà. Et au bout de la 3e ou 4e réunion, il s'est mis là, il commençait à voir les cantiques. À la fin, il me dit, vous savez pas, je commence à voir les cantiques et tout. Et il revient, il me dit, mais je vois de mieux en mieux. Et quand il est arrivé chez lui, écoutez bien, quand il est arrivé chez lui, sans la canne, il y a un voisin qui lui a dit, ah, tu n'auras plus besoin de la cotorette maintenant. Il n'est plus jamais revenu. Vous vous rendez compte ? Et il me l'a dit, parce que je l'ai appelé. Il m'a dit, non, je ne reviens plus, moi je ne sais pas comment je vais faire, si je suis guéri, il faudra que je travaille. Si je suis guéri, il faudra que je travaille. Je ne sais plus ce qui est devenu. Enfin, ça fait quand même mal au cœur, quoi. Mais je vous assure que c'est vrai. Dieu m'est témoin, je vous assure que c'est vrai. Une chose, c'est bien. Je sais une chose, mais cet homme, il n'en est pas resté là. Et qu'il en soit de même pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas les expériences que vous avez faites, celles que vous ferez encore. Mais il faut, je le pense que c'est le plus merveilleux, d'arriver à cette faveur que le Seigneur soit vraiment notre Dieu, le Fils de Dieu, celui qu'on adore. Cet homme, un jour, il va passer devant Dieu, comme tous. Hein. Quelle bénédiction ! Parce qu'il a obéi. Jésus lui a dit, va te laver. Il n'a pas calculé, il a obéi. Et quand vous lisez votre Bible, si le Seigneur vous demande quelque chose, faites-le. Je me souviens de ce gars qui travaillait avec moi en boîte de nuit. Et comme il travaillait en boîte de nuit, il avait beaucoup de temps pour jouer au bowling. Et il est devenu champion du monde de bowling. Et il ne venait plus à l'église parce qu'il était pris, etc. Bon. Et un matin, il lisait sa Bible. Et il tombe sur le texte, « Si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la. » Et il a eu à cœur de venir à l'église. Et je ouvre ma Bible et je lis, « Si ta main droite est une occasion de chute. » Et le gars, il s'est effondré. Et aujourd'hui, il sert le Seigneur. Vous voyez, Dieu lui a parlé par une parole. Une parole, le Seigneur lui a parlé. Il a pris en considération ce que Dieu lui disait. Et la foi est une foi d'obéissance. Cet homme, il a été béni, malgré ses combats, malgré ses luttes. Vous avez vu quand même tout ce qu'il a traversé, dès le début de sa marche avec Dieu. Mais parce que la foi, c'est pas dire, moi je crois en Dieu, je crois que toute la Bible est vraie. Non, la foi, c'est dire, Seigneur, tu me montres ça, je le fais. Tu me montres que ma main est une occasion de chute, eh bien, je tiens compte de ça. Tu me montres que cette chose est mauvaise pour moi, eh bien, j'arrête. Est-ce que Dieu est capable de nous bénir ? Quand on obéit, le Seigneur nous bénit. Pourquoi c'est possible tout ça ? Mais parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Voilà. Pourquoi on a de l'assurance ? Parce qu'on a fait de belles expériences ? Non. On sait qu'on ira au ciel avec le Seigneur, non pas parce qu'on a fait de belles expériences, mais parce que sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie. Et c'est ça qui nous réjouit. Et c'est ça qui devrait amener les gens à prendre conscience de la grande bénédiction. Quand on tourne les regards vers lui. Il est mort sur la croix. Moi, je ne suis pas sauvé parce que je prêche l'évangile. Un jour, il y avait un pasteur dans l'église qui avait posé la question « Qui sera sauvé ?» Alors, il y a une dame avec « Les prédicateurs !» Oui, qui est sûr d'être sauvé. La dame, vous voulez les prédicateurs? Et le pasteur a dit non, c'est pas les prédicateurs. On n'est pas sauvé parce qu'on est prédicateur. On est sauvé parce qu'on a accepté le sang de Jésus-Christ. Que lui nous couvre et que lui nous lave. J'espère que cet homme est au ciel, je le crois vraiment, qu'il est resté fidèle jusqu'au bout. Mais c'est ce que Dieu veut. Mais que nous ne restions pas des expériences, à de belles expériences. Moi, vous savez, je fais très attention quand quelqu'un me dit « Oh, j'ai vécu telle expérience. » Voilà. La question que je me pose aujourd'hui, c'est ça. Est-ce qu'on en reste à des bénédictions? Est-ce qu'on en reste à des expériences? Est-ce qu'on en reste à la religion superficielle? Ou est-ce qu'on veut plutôt devenir de vrais adorateurs, de vrais témoins? Car cet homme a été un témoin. Le peu que nous voyons dans ce chapitre nous montre ce que c'est un témoin, quelqu'un qui est délivré, qui devient un adorateur. Voilà, on va fermer les yeux et demander au Seigneur qu'il nous aide. Parce que Dieu est capable, la prochaine fois que vous ouvrirez votre Bible, de vous montrer quelque chose de très sérieux auquel il vous faudra obéir. Seigneur Jésus, oui, tu nous as laissé cette histoire pour nous montrer que la foi est une foi d'obéissance et que tu bénis toujours les hommes qui t'obéissent. Seigneur, tu nous as conduits ce soir et même si nous sommes si peu nombreux, tu es au milieu de nous, Seigneur, et tu veux nous bénir. Et c'est vrai que tu peux nous permettre de faire de nouvelles expériences. Tu peux nous amener au-delà d'une chose ou de plusieurs choses vécues à réaliser que tu es un grand prophète et que tu es plus qu'un prophète. Tu es le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, capable de nous conduire, de nous ouvrir les yeux. Mon Dieu, merci pour ces histoires. Oui, nous aussi, nous voulons t'adorer. Nous aussi, nous voulons te bénir. Nous voulons, Seigneur, être libérés et faire ce que tu nous demandes. Oui, Seigneur. Si tu nous demandes d'aller à ce réservoir, de lire ta parole, de nous jeter dans cette source afin que nos yeux s'ouvrent, eh bien, donne-nous la grâce, Seigneur, d'aimer ta parole, afin que nous aussi, dans cette source, nous soyons purifiés, nous soyons lavés, que nos yeux s'ouvrent et que nous voyions vraiment tout ce que tu veux nous montrer encore. Car nous croyons, Seigneur, que tu n'as pas fini de nous montrer tout un tas de choses nouvelles pour nous éclairer. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Pour ces moments, hein, moi je crois qu'on a un Dieu grand et puissant qui est capable de délivrer et de nous dire quelque chose lorsqu'on lit sa parole. Moi depuis mardi soir, j'ai une parole qui est dans mon cœur et je vous assure qu'elle m'interpelle. Une parole que je connais, un texte que je connais par cœur depuis des années, des décennies. Et pourtant je vous assure que cette parole s'est posée à mon cœur et je bénis Dieu qu'il me l'a. Je crois que ça vient du Saint-Esprit, mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas venir de l'ennemi, croyez-moi, ou de moi. Ça ne peut venir que du Seigneur. On pourrait peut-être chanter un chant hein, pour terminer. Et si quelqu'un a besoin, eh bien, même si on n'est pas nombreux, ce n'est pas grave. Si quelqu'un avait besoin que l'on prie pour lui, eh bien, qu'il s'avance. Et on priera avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni.